Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour Antoine Cardon.
Bonjour Nathalie.
Alors je rappelle que vous êtes laïque, vous avez 25 ans de mariage et cette semaine nous consacrons, et je souhaitais consacrer cette série aux 30 ans de cette lettre encyclique de Jean-Paul II, Veritatis Splendor. Le pape émérite Benoît XVI, décédé le 31 décembre 2022, avait même mentionné que c'était l'une des plus importantes encycliques de Jean-Paul II, dans laquelle il est question des fondements de la morale. Une encyclique qui aura demandé 6 ans de travail. Alors au programme aujourd'hui avec vous, on va parler de cette autorité de l'Église à travers Veritatis Splendor. Alors qu'en est-il de cette autorité de l'Église cette encyclique, la splendeur de la vérité? Voilà, c'est une grande question. Hein.
Oui, c'est une question
incontournable.
Qui a son intérêt, oui. Effectivement, on écoute Dieu à travers l'Église, à travers l'autorité. Elle est infaillible. Le pape est infaillible, mais sous certaines conditions. Il peut parler de son propre nom. Il peut, tout ce que dit le pape n'est pas parole d'évangile. Mais voilà, il peut effectivement engager son autorité. On doit toujours écouter le pape avec une certaine attention et une piété filiale. Ceci dit, il faut pas être naïf. Un évêque peut dire des erreurs, n'est pas forcément infaillible en tout. Là, en l'occurrence, dans l'encyclique, pour qu'il y ait infaillibilité, qu'il y ait haute autorité, il faut vraiment que ce soit un enseignement. Là, ça l'est, c'est un enseignement d'église, c'est une encyclique. Donc c'est déjà un accent. Ce qui marque son autorité, c'est qu'il parle de la foi et de la raison. Il faut que ce soit de ça. C'est le domaine dans lequel l'Église est infaillible, et il faut qu'il engage son pouvoir pétrinien. Et bon, il y a quelques versets, quelques textes qui montrent quand même qu'il engage le magistère, la doctrine. C'est pas lui qui parle. Il n'y a pas de nouveau dogme. Il reprend l'ensemble des dogmes déjà, ainsi définis déjà depuis des siècles, depuis toujours. Il reprend toute la tradition, oui.
Oui. Alors, cette encyclique est-elle, je dirais, accessible, je dirais, pour le plus grand nombre, pour, je dirais, monsieur, madame, tout le monde qui vous écoute peut-être aujourd'hui et qui découvre une encyclique qui n'est peut-être pas connue à ce jour pour certains?
Ah bah oui et non, en fait, je ne vais pas vous cacher, c'est une encyclique qui est dense, je trouve, les mots sont pesés, réfléchis, circonstanciés. Donc les phrases peuvent être les textes assez longs, c'est sûr, mais enfin ils sont très précis et c'est très clair. Je pense que la difficulté de la lecture est plus due à ce que nous sommes nous par rapport à l'Évangile, c'est-à-dire un cœur pur qui comprend très bien que c'est nous ou Jésus. On compte sur Dieu ou on compte sur nos propres forces. Il comprendra, c'est fluide. Ça lui viendra tout de suite, c'est lumineux. Voilà. Alors, après, on peut être. Il y a des zones d'ombre, il y a le vieil homme qui est là aussi. Et là, ça accroche, parce que c'est vrai que c'est des paroles assez virulentes. Enfin, il nous met le radicalisme de l'évangile en pleine figure. Donc là, ça peut devenir un petit peu délicat, difficile. Mais bon, je la lis tous les soirs parce que j'en ai besoin.
Parce qu'en introduction de cette encyclique, on peut se dire que cette encyclique ne s'adresse pas forcément à tout baptisé, tout pauvre laïc que nous pouvons être, puisqu'il s'adresse ainsi, vénéré frère dans l'épiscopat, salut, bénédiction apostolique.
Alors, effectivement, ça s'adresse d'abord au pasteur, mais ça ne veut pas dire que ça ne nous est pas adressé à nous et qu'on ne doit pas la lire, bien au contraire, je crois que non. D'abord au pasteur, parce que c'est à eux de nous enseigner cela, c'est à eux de nous guider, de veiller à ce que nous soyons bien dans la foi. Et c'est à eux de nous protéger aussi des hérésies. Donc ça s'adresse à eux en premier lieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas l'avoir. Et au contraire, s'ils n'osent plus nous défendre, le pape nous défend. Et cette encyclique est là aussi pour nous défendre, nous. Voilà. Alors, pour revenir sur les difficultés, effectivement, celui qui veut un évangile sans la croix ou qui s'efforce à essayer de faire un évangile Sans la croix, bon, c'est dans l'encyclique est indigeste et incompréhensible. Je crois que beaucoup, même des évêques ou des prêtres, ne comprennent pas ou ne peuvent pas comprendre parce que c'est trop fort. Il est même très répétitif, c'est assez peu rébarbatif. Enfin, oui, il faut vivre les commandements, c'est une condition, c'est une nécessité. Si on veut être sauvé, voilà, il faut vivre les commandements, la grâce est là pour. C'est répétitif. Alors, et en même temps, c'est bénéfique, on en a besoin, mais il revient là-dessus.
En fait, c'est
assez
répétitif
simple,
hein. Comme l'évangile en lui-même.
Oui, mais voilà, mais c'est ça, l'évangile est très simple. Il est très simple, c'est nous qui le compliquons.
Au fond, l'évangile et suivre Jésus, c'est très simple, c'est pas compliqué, si ce n'est que la porte est étroite, le chemin est périlleux,
voilà.
Et l'on peut s'égarer.
Mais c'est ça.
Donc c'est une question d'éternité au fond, et du salut de l'âme.
Oui, soit on accepte de prendre ça, de se remettre d'entrer dans le mystère de la croix avec Jésus, enfin voilà, on joue son éternité, on accepte ça, on accepte le risque. On fait confiance, bon, bah là, on goûte à la perle précieuse, on sait, on comprend, l'évangile devient tout à fait lumineux. Voilà. Et inversement, si on veut pas de ça, ça devient obscur, on comprend pas. Et je crois que l'encyclique est de cet ordre-là.
Jean-Paul II, à la fin du XXe siècle, faisait ce triste constat qu'une grande partie de l'humanité avait perdu le sens de Dieu et donc le sens du péché, avec pour conséquence le rejet de la morale. C'est peut-être un peu, je dirais, cette mise en lumière il y a 30 ans de Jean-Paul II avec cette encyclique, pour peut-être rappeler comment des mortels, en particulier aux bergers eux-mêmes, en responsabilité, je dirais, des brebis.
C'est
chacun des laïcs, pourquoi chacun des baptisés et non baptisés.
La question, pourquoi cette encyclique est si importante, ou pourquoi l'a-t-il écrite ?
Est-ce que c'est un rappel ? Oui, tout à fait.
Oui, mais il le dit clairement. Enfin, là, j'aimerais tant vous lire. Je ne peux pas,
On ne peut pas lire des extraits.
Il faudra le lire.
Il faut découvrir cette encyclique.
Il le dit clairement aussi. C'est une crise majeure qu'on vit dans l'Église. Il le disait là. Aujourd'hui, c'est peut-être d'autant plus important. Sans précédent. C'est un temps d'apostasie.
D'hérésie
est peut-être plus grave que jamais, il le dit clairement, parce que là ça touche, la notion de vérité et de liberté dans ses profondeurs. Une crise comme jamais, une perte de la foi, et c'est la raison qu'il avertit. Et il met en garde d'abord les évêques, ils auront des comptes à rendre, ils doivent nous guider correctement, il y a des choses à dire, il ne faut pas qu'ils aient peur, les prêtres et les laïcs aussi. Il le dit clairement, on défigure le Christ si on ne respecte pas les commandements et les vérités de la doctrine. Voilà. Alors on aura tous nos comptes à rendre. C'est un peu ça aussi l'encyclique. Il nous met vraiment devant nos responsabilités. Et voilà. Donc il faut la lire rien que pour ça, quoi. Parce que oui, il faut être. On va tous être passés en jugement devant le bon Dieu. On aura des comptes à rendre de cette Église, et si aujourd'hui l'Église va mal, et si elle tombe en ruine, plus ou moins, c'est qu'il y a des responsables, et on peut l'être tous, plus ou moins. Juste une petite chose aussi qui me semble super intéressante dans Veritatis Splendor. Jean-Paul II se met dans la droite ligne de toute la tradition, bien sûr, mais aussi du Concile Vatican II. Alors ça devient extrêmement lumineux, parce que oui, il nous tord le cou à toutes ces interprétations du Concile qui sont infectes, quoi, sur la liberté religieuse ou la liberté de conscience. Non, lisons l'encyclique Veritatis Splendor et on verra qu'on ne peut pas dire n'importe quoi au Concile Vatican II. C'est pas possible. Voilà. Et on découvre aussi qu'effectivement, il y a une lecture du Concile Vatican II sur ces grandes questions qui peut être tout à fait légitime, bonne, et qui viennent éclairer aussi la tradition. Vatican II n'est pas mauvais, ça c'est, on a fait quelque chose plus ou moins de mauvais, c'est un peu la
on a interprété, réinterprété.
Non mais il le dit lui-même, il y a un paragraphe où il le dit, il y a eu vraiment une lecture du Concile qui est mauvaise. Voilà, il nous met en garde par rapport à ça aussi. Donc c'est aussi un grand bol d'air de sa part. Parce que là on est dans une sorte de cliché, quoi. Ou c'est Vatican II et on refuse la tradition. Ou c'est la tradition, on refuse Vatican II, presque, enfin, ou plus ou moins, sans trop se le dire. Non, c'est pas vrai.
Là, c'est le cœur de l'actualité, hein, qui est un peu brûlant. Hein.
Oui, mais
on est au cœur d'une division, d'une incompréhension.
Mais Veritatis Splendor est vraiment d'une actualité plus que jamais, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, c'est... Enfin oui, lisez Veritatis Splendor. Prenez le soin, prenez...
Prenez votre courage, peut-être. Ouais. Un peu de temps pour...
Oui, accepter de... Tu sais, c'est des jets de lumière. C'est réconfortant, ça déboussole aussi, mais... Ouais, ça vaut le coup de le lire, vraiment. Ça ne peut faire que du bien, et en tout cas, moi, je la lis tous les ans, hein, vraiment. J'ai besoin de m'y remettre. C'est bon.
Alors, on marque certain anniversaire avec vous, et merci Antoine Cardon. On vous retrouve
avec plaisir, ouais.
Dès demain, même lieu, Nathalie. Même heure, ici dans ces studios à Lourdes, où nous enregistrons. Au revoir.